Ma femme Catherine, il enfourche sa vieille moto des années 70, une mammouth, et part à la recherche de ses bulletins de salaire. Et demain sera à l'affiche aux rencontres à la campagne de Rieux-Pérou, projetée à 15h, les aventures de Robin des Bois, réalisées par Ridley Scott avec Russell Crowe, Cate Blanchett et Max von Sydow. Voilà, bon ciné à vous tous, et à demain.
Des années d'analyse, des décennies de recherche.
Eureka !
Des siècles d'imagination. C'est la pop, le rock, le pays.
Et bien donc, table ovale sans ellipse, table ovale qui réunit ce soir François Jeannodet pour le Modem, Angelo Andréotti pour le Parti Communiste, Lionel Lacroix pour le Parti Socialiste, Guy Pezet pour Europe Écologie et Serge Roch pour l'UMP. Notre sujet de ce soir était posé d'une façon presque sibylline, mais il a plein d'ouvertures. Plus nous la prendrons tard et moins nous serons tentés de cumuler avec un emploi, la retraite. Et évidemment, je faisais, parce que j'envoie les sujets quand même pas mal de temps à l'avance, mais depuis, ça s'est enrichi, ça s'est abondé. Donc, je faisais allusion à ce moment-là au débat qui était né, la rémunération qui était envisagée de verser à Madame Boutin pour son étude sur l'impact de la mondialisation dans les milieux sociaux français, et qu'elle cumulait avec une retraite. Il m'avait semblé que ça n'était peut-être pas la seule fois, enfin que légalement il était autorisé depuis déjà pas mal de temps, les militaires le faisaient depuis encore plus longtemps que les autres d'ailleurs, mais il était autorisé de cumuler un emploi et une retraite. Donc j'avais été un peu surpris du débat qui en était ressorti. D'ailleurs, depuis, elle a renoncé à cette rémunération, mais pas pour autant à l'étude certainement très pertinente qu'elle nous délivrera sur l'impact de la mondialisation. Alors après tout, ça fait partie de votre paroisse, Monsieur Roch. Est-ce qu'il faut remettre en cause la loi qui permet de cumuler un emploi et une retraite, déjà ? On parlera peut-être d'autres cumuls une autre fois, ou maintenant, bien. Voilà.
Écoutez, ça, c'est le législateur qui le dira. C'est la loi du cumul emploi-retraite-emploi, c'était pour favoriser une certaine activité des retraités qui pouvaient avoir envie de travailler d'arrondir leur retraite, d'améliorer leur retraite par un emploi. Et puis, il y a parfois des personnes, notamment je pense à des artisans ou des chefs d'entreprise, qui peuvent partir au moment où ils sont encore en bonne forme, où ils ont un savoir-faire qui n'est pas toujours transférable. Et bref, lorsqu'ils partent, c'est la société qui perd en efficacité, qui perd en savoir-faire et qui perd en compétences. Et donc, d'avoir cette possibilité de cumuler les deux, de ne pas obliger systématiquement les gens à partir à la retraite à 60 ans, alors qu'ils désireraient travailler, me semble-t-il, va dans le bon sens, et dans le sens, en tout cas, d'une meilleure activité dans la société.
Effectivement, c'est une réponse à la question. C'est la réponse à la question.
Ça a été fait pour ça, la loi.
Absolument.
Ça a été fait pour ça il y a quelques années. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en étaient fort satisfaites. J'en ai rencontré plus d'une qui était très heureuse de pouvoir cumuler les deux. Et j'en ai rencontré beaucoup aussi qui étaient fort Marie de pas pouvoir, parce que c'est une loi un peu compliquée, comme toujours en France, il fallait pas que ça dépasse un certain niveau, enfin, et certains trouvaient que la loi était trop restrictive et auraient voulu travailler beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Je crois qu'on est, il faut permettre ceux qui veulent partir à la retraite, eh bien ils partent, mais ceux qui ont envie de travailler encore quelques années et de montrer encore une fois à la société ce qu'ils savent faire, pourquoi leur interdire de le faire, alors que parfois personne d'autre n'est capable de le faire, parce que dans certains métiers il y a un savoir-faire qui est un savoir manuel qui n'est pas forcément transmissible, ou en tous les cas qui est mal transmissible. Voilà.
Alors, je vais reposer la question autrement à Monsieur Pezet cette fois-ci. Est-ce qu'il est normal de travailler gratuitement?
oui, Francis, enfin oui, on le fait quand même. Justement, il y a beaucoup de travail qui est fait gratuitement. Et en particulier, si on réfléchit globalement sur la question du travail, ce qu'il faudrait faire, et de l'emploi, hein, plutôt que de réfléchir que sur la question comptable et technique des retraites, comme elle est proposée dans le cadre de cette réforme, il faudrait effectivement réfléchir sur les plusieurs temps d'emploi de travail qu'il y a dans la vie, et que ce soit un travail de formation, par exemple, que ce soit le travail qu'on fait dans les associations. Je pensais au mien. Alors, on connaît assez bien, on se connaît assez bien en général de ce point de vue-là. Ben, moi, je fais beaucoup de travail, je trouve, pour des associations, et c'est du travail non rémunéré, lucratif. Et je crois qu'une réflexion intéressante serait de prendre en compte aussi tous ces temps-là, effectivement, qu'il y a dans la vie de.
Et les prendre en compte pourquoi ?
Enfin, en tout cas, dans la réflexion globale sur le travail. Parce que justement, il y a quand même beaucoup de gens qui font du travail associatif non rémunéré. Quand le travail, dans le cadre de Madame Boutin, c'était quand même un travail rémunéré sur faire une étude avec des gens pour l'aider, qui ne me semble pas ni indispensable spécialement, et en tout cas qui me semble sur un sujet très large et très rebattu, qui ridiculisait un petit peu la rémunération, enfin je sais pas, qui rendait un petit peu extravagante la rémunération mensuelle qui était proposée pour ce genre d'études. On avait déjà vu ça avec aussi, je sais plus qui c'était, Xavier là, non, qui avait fait un rapport plein de fautes d'orthographe. Donc comment elle s'appelait? C'est Madame Tibéry, voilà. Mais si, c'était Xavier, je crois que c'est.
Ah oui, c'est son prénom.
C'est joli, oui. Xavier, je m'en rappelais. Donc, on avait déjà vu ce genre de choses. Effectivement, je trouve que c'est par rapport à tous ces gens, qu'il y en a beaucoup en France qui donnent beaucoup de temps et qui font un travail à la tête d'association et qui s'occupent de salariés et qui s'occupent d'autres personnes. Je trouve ça totalement indécent. Par contre, ce que je trouve intéressant dans le problème Boutin et dans la phrase que vous avez proposée, c'est qu'effectivement, la réflexion sur les retraites, elle est liée à la réflexion sur l'emploi, alors qu'elle ne l'est pas dans le cadre de la réforme telle qu'elle est proposée, purement faire plaisir au marché financier tout le temps, réduire en réduction des déficits publics, comme si vraiment les marchés financiers devaient dicter toute l'organisation de la politique nationale. Et bon, c'est quand même eux, il y a 2 ans, alors qu'à l'époque où il y a 3 ans, tout le monde à droite était pour la retraite par capitalisation quand même. Hein. 2007, c'était ça quand même, Sarkozy. Tout le monde était... heureusement. Et puis tout de suite, la crise est arrivée, amenée quand même par ces marchés financiers, par un certain nombre de dérives financières comme ça du capitalisme. Et on se retrouve avec un débat à nouveau pour faire plaisir à ces marchés, avec maintenant les agences de notation dont on ne parlait pas il y a 3 ans. Et gageons bien que dans 2 ans, ce soir, la bourse baisse partout de 4% en France. 4-50%, c'est beaucoup. S'il y a encore d'autres problèmes, ou je ne sais pas ce qui va sortir, il y aura encore d'autres organismes comme ça pour dicter les politiques des États. Donc moi, je crois que c'est effectivement intéressant, le sujet comme il était posé à travers l'histoire emploi-retraite, parce qu'effectivement, il faut lier cette réflexion-là sur tous les temps de travail qu'on a dans la vie et sur, effectivement, à quel âge il est bon de prendre la retraite. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, même si je comprends évidemment qu'on puisse travailler après 60 ans, mais c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais je ne crois pas que ça veuille dire qu'il faut supprimer justement le chiffre de 60 ans. Ouais, il faut laisser la parole aux autres.
Monsieur Andréotti, sur cette analyse de ce que peut être le travail, mot détestable entre parenthèses, je lui ai souvent préféré œuvre.
J'ai l'impression que la situation, du point de vue de la compréhension de toutes ces lois, de leurs conséquences et de leur raison d'être, est passablement embrouillée, et délibérément embrouillée. On met l'accent sur des petits points de détail, il en manque pas, cumul d'emploi-retraite, les petites affaires, des cigares, etc. Bon, tout ça crée une confusion générale pour que l'on oublie, nous parlons en tant que fondateurs des retraites, les communistes, avec leur ministre Ambroise Croizat, de ceux qui ont instauré...
C'est Bismarck,
oui, non. En France, le système des retraites solidaires issu de la libération porte sa signature. Et je dis, on est en train de multiplier les questions de détail, en général, avant de réagir sur celui-là, pour qu'il n'y ait absolument pas de débat sur le financement général, ni sur un projet de société. À l'heure actuelle, le problème que se pose, les gens ne veulent pas travailler après. D'abord, la moitié ne travaille pas à 60 ans, déjà. Ensuite, les Français consultés par des organismes sérieux le disent à 60 ans. Leur problème, c'est pas de travailler en même temps que la retraite. S'ils le font, comme disait M. Roch, c'est justement parce que souvent ça arrange leur fin de mois, mais leur problème n'est pas de savoir s'ils vont trouver un travail à la retraite, c'est justement la crainte de ne pas de devoir pour beaucoup vivre au crochet des autres et de ne pas pouvoir vivre dignement. Donc pour moi, qu'il y ait des gens qui trouvent un petit travail parce que c'est un problème personnel, c'est un problème, on ne va pas s'y opposer en soi. Mais la question que se pose, c'est celle des jeunes en même temps, c'est lié. Si on fait travailler les personnes âgées, c'est sous quelles conditions? Et l'emploi des jeunes, parce que il n'y a pas d'emploi actuellement, il manque que 4 millions d'emplois, hein, il y a 4 millions de chômeurs, et la situation se dégrade de jour en jour, donc je ne sais pas trop quel travail trouvera une personne de 60 ans, encore faut-il qu'elle soit en bonne santé, parce qu'on parle ici de projet de loi pour des gens qui sont tranquilles, en bonne santé, et qui ont une espérance de vie phénoménale.
La loi permet le cumul.
Oui, mais ce problème, il se pose pour des gens en parfaite santé, n'est-ce pas, qui ont passé la vie tranquille, et qui sembleraient n'avoir aucun souci, même au travail, je ne sais pas lequel d'ailleurs. Donc pour moi, c'est complètement abstrait, toutes ces questions telles qu'on les mélange, ne donnent rien. C'est-à-dire, alors, soit on va poser la question du financement général, pour qu'on revoie l'ensemble des dispositifs, soit on cherche à discuter d'une société qui permet aux gens âgés de mieux vivre. Oui, ça, c'est des questions qu'on se pose. On a des propositions aussi. Mais si on mélange tout, j'ai peur, moi je vais arrêter là-dessus, c'est que toutes ces questions qui se posent en même temps servent à noyer le poisson, pour moi.
Certes, mais je me demande si le poisson, on ne vient pas d'assister à sa noyade. Vous aviez parlé du financement. Alors, je sais pas, du coup, je vous donne la parole un peu longuement, parce que je vous avais commencé sur le financement et vous avez continué sur la notion d'employabilité.
Mais si vous voulez, le sujet de la discussion était à partir de ce que l'on a relevé comme abus, côté de tel ou tel ministre, etc. C'est pas une question de personne pour nous. C'est pas une question de trouver comme Kerviel un bouc émissaire. On a l'impression que les médias sont contents, on a trouvé le coupable, donc tout va mieux. Il suffira de condamner un tel, les mesurettes de Sarkozy pour limiter le nombre de voitures, etc. Puis c'est tout. Mais tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Donc ça m'intéresse même pas, si vous voulez, de l'évoquer. Hein, oui, même combien coûtait la boîte de cigares, combien coûtait... non, c'est ça l'intérêt. Donc les propositions que nous avons, elles sont d'une autre importance, c'est-à-dire que ce financement, il doit être... si je parle des retraites, parce que je voudrais simplement, pour pas monopoliser la parole, dire que les projections alarmistes qu'on nous fait pour 2020, 2040, etc., sont totalement fausses. C'est complètement impossible de savoir quel sera le taux de démographie dans 20-30 ans. C'est complètement impossible de savoir quel sera le taux d'emploi. Et on se base sur des chiffres qui n'ont aucune valeur scientifique ni crédibilité. Donc par contre, on peut calculer ce que ça coûterait, en effet, de maintenir un système pour les retraites qui soit antérieur à cette loi et même amélioré. Et ça ne coûte pas plus de 3% de PIB. Et encore, en allant...
Mais vous nous faites souvent le coup des 3% voilà. Du PIB.
Voilà, c'est tout, mais c'est calculé. Alors, par contre, le financement, bien sûr, si on fait cotiser les revenus financiers au même taux que les salaires, il n'y a pas de problème. Regardez ce que l'on prend sur les boucliers fiscaux. C'est exactement le déficit des retraites. Donc, vous voyez, il n'y a pas de problème de financement, c'est une question de volonté, c'est tout. Moi, je m'arrête là pour l'instant.
Mais je m'aperçois d'ailleurs qu'en disant, M. Andréotti, en disant qu'il n'y a pas de problème de financement...
Si on veut, il n'y en a pas.
Ça renvoie... On a l'impression...
Mais sur une volonté.
Et c'est peut-être une réalité, que la retraite et les prestations sociales en général relèvent peut-être plus de l'impôt que des charges salariales. Monsieur Lacroix.
Oui, je crois que...
Éventuellement, dites-nous deux mots sur le cumul de Mme oui. Boutin, mais...
Boutinade. Sur la boutinade, je crois que l'erreur, c'est de vouloir justifier le recul de l'âge légal de départ à la retraite en expliquant que ça va permettre à certaines personnes de pouvoir cumuler l'emploi à retraite. Sur le cas Boutin, ce qui a
Je n'ai pas entendu dire ça, mais enfin bon.
Moi, je l'ai entendu à demi-mot de la part de M. Rock, donc je le dis. Qu'on permette aujourd'hui...
Il y a une loi actuellement qui permet le cumul emploi-retraite. Et si on... C'est ce dont je parlais. Mais si on recule l'âge de la retraite, on ne pourra plus cumuler l'emploi et la retraite, puisque l'âge de la retraite sera retardé. Donc, jusqu'à 62 ans, vous ne pourrez pas cumuler emploi-retraite. Ce sera l'un ou l'autre. Donc là, on parlait d'un cas particulier.
Bon, et
le dispositif actuellement du cumul emploi-retraite. Mais dans le problème des retraites, ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de savoir si vous êtes d'accord pour le recul
parce
de l'âge
il faut
légal,
faire,
etc.
Il faut, oui. Non mais tout est lié. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est on assiste à l'abaissement aussi du montant des pensions à des retraités qui, à 70 ans, continuent d'essayer de travailler et prennent n'importe quoi. Et c'est pas forcément l'exemple à suivre. Sur le cas de Boutet, ce qui a posé problème, c'est l'exemple qu'on confie à un parlementaire qui a une certaine expérience, qui a été dans un gouvernement, peu importe d'où il vienne, une mission sur un point précis qui peut intéresser l'État. Moi, il n'y a rien qui me choque. Ce qui est gênant sur le cas Boutin, c'est qu'on assiste encore plus à l'Élysée, une augmentation de l'entourage du président de la République, et ça, c'est un coup. Et ça sonne faux quand on entend aujourd'hui nos dirigeants nous dire il va falloir qu'on fasse tous un effort collectif, puisque les retraites, le travail, on nous explique qu'aujourd'hui, qu'on va le réformer, très bien, mais il faut qu'aussi les Français aient l'impression que tout le monde joue le jeu. Et sur le cas Boutin, et il y a eu d'autres exemples sur l'affaire Woerth ou d'autres, qui aujourd'hui posent le problème de la crédibilité de nos dirigeants qui aujourd'hui nous présentent cette réforme-là. Sur la question que vous posiez aussi sur le financement du système des retraites. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le système qu'on a en France, on l'appelle pas répartition, mais il est plus un système de capitalisation publique auquel on tient tous et les Français sont très attachés. Mais c'est plus un système de capitalisation publique où il y a des difficultés sur la répartition. C'est pour ça que, pour ma part, je suis favorable à une réforme. Maintenant, il faut voir laquelle. Sur les sources de financement, parce que je ne suis pas tout à fait en accord avec ce que dit M. Andréotti, il y a des problèmes de financement aujourd'hui qui sont aisés, et il l'a rappelé.
Pourquoi il n'y en avait pas dans une France ruinée
après la guerre.
Il y a un problème de financement, vous l'avez dit, Angelo. Le problème de financement, vous l'avez...
Avec une productivité beaucoup plus basse qu'aujourd'hui, du travail, parce qu'on fait semblant
d'oublier
d'où viennent les richesses, quand même.
Angelo, je ne parle pas des raisons, je parle sur le constat, vous l'avez bien rappelé.
Non, c'est une question de choix,
le problème de l'emploi des... Non, mais le constat...
Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème,
le
mais
constat
c'est...
qui est établi par le corps, qui est un organisme qui a été institué il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un problème de l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors. Et c'est bien ça, la première solution pour avoir un système qui est équilibré, c'est de permettre aux jeunes et aux seniors, vous l'avez bien rappelé, que pour qu'on arrive à travailler jusqu'à 67 ans, il faut déjà qu'à 50 ans on puisse travailler. Donc la première source de financement, c'est celle-là. Après, sur la capitalisation, moi je suis d'accord. Avec la parenthèse que on sait très bien, et il faut pas faire de démagogie, on va pas asseoir le financement des retraites que sur le capital. Donc c'est un système où on va en prendre en compte tout ça, c'est à la fois augmenter le nombre de cotisants, aller chercher des ressources en partie sur le capital, et comme ça on va arriver. Et aussi, on en parlera tout à l'heure. Il y a une question qui n'a pas été abordée encore, et ce projet-là doit être voté en septembre. C'est la pénibilité. Sur la réforme que moi je défends, sur la réforme qui soit beaucoup plus juste, puisque si tout le monde fait un effort, il faut aussi qu'on parle de la répartition de la justice sociale. La pénibilité, aujourd'hui, personne n'en parle.
Ça fait
des années.
Peut-être pas suffisamment, non. Mais le projet de loi
au bout d'un moment, il va falloir agir. Ça fait des années que les partenaires sociaux demandent la pénibilité.
On est le seul pays au monde à avoir adopté cette
alors, vous allez
disposition.
Il y a un problème dans votre discours, c'est que si vous décrétez, on va passer tous à 67 ans. Si on veut vraiment prendre en compte la pénibilité...
62, pas 67.
Si on veut vraiment prendre en compte la pénibilité, c'est pas sûr pour les futures générations. Si on veut prendre en compte la pénibilité, il faudra accepter qu'il y a des gens qui partent plus tôt que l'âge légal. Donc, voit bien que le problème, il n'est pas de dire 60, 65, 67. C'est si on met en place cette pénibilité-là, on va assister en partie à des régimes spéciaux. Mais spéciaux, ce n'est pas forcément aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est un gros mot. Les régimes spéciaux, ce n'est pas quelque chose de négatif. À l'époque, ça existait pour permettre à ceux qui travaillent dur de pouvoir partir plus tôt.
Aujourd'hui, mais c'est déjà prévu, les longues carrières, c'est prévu, ils partent en 60
ans. Non, ça fait des années qu'on
voit là-dessus. Là, on ne pourrait pas dire le contraire. Ceux qui ont commencé à travailler moins de 18 ans partent avant 60 ans. C'est prévu. Ils partiront avant 60 ans. Bon, c'est prévu par le texte de loi et c'est déjà, vous le savez bien, la réforme Fillon qui l'a mise en route. D'ores et déjà, ça marche et ça continuera à marcher et ce sera même renforcé dans le dispositif de la loi. Concernant l'invalidité, la pénibilité, ce que prévoit la loi, d'ores et déjà, en sachant que le Premier ministre a dit que la discussion aurait lieu en septembre et que d'ici là, cette partie-là était améliorable, qu'il est ouvert à d'autres propositions. Mais d'ores et déjà, il est acquis que les pensionnés à plus de 20% auront droit à partir plus tôt que les autres. C'est inscrit dans la loi. Et on est le seul pays à l'avoir inscrit. Hein, parce que, moi, quand même, il arrive un moment où... Écoutez, on est le seul pays à avoir les 35 heures généralisées. Le seul. Bon, déjà, il faut financer ça. Oui, il n'y en a pas d'autres.
Je sais que pour vous, c'est très mal les 35 heures.
Je crois que oui, mais d'accord, mais moi, j'aimerais bien, voyez, qu'on fasse un bilan.
Et qu'on fasse un bilan objectif. Qu'on fasse un bilan objectif.
Mourir au travail, quand même.
Qu'on fasse un bilan objectif. On est le seul pays à l'avoir fait. Il faut le financer. Bon, le seul pays à les 35 heures, le seul pays où encore on discute de la retraite à 60 ans. Le seul. Tous les autres pays, il n'y en a pas un seul.
On peut se tromper à beaucoup, hein, avoir raison de tout ça.
Non, mais enfin, avouez qu'il y a un problème.
Non.
Il n'y a pas de problème.
Lorsqu'on a été le premier à fonder un système comme celui-là, on n'a pas regardé si ça existait ailleurs. On l'a fait.
Non, mais vous êtes sans doute beaucoup plus intelligent que tous les autres dirigeants.
Il faudrait écouter les autres qui veulent qu'on augmente la durée du travail jusqu'à 68 heures hebdomadaires, sous prétexte que les autres le demandent aussi, pourquoi pas, suivant. Avec ce raisonnement, où est la norme?
Je voudrais qu'on revienne après, on va revenir.
Il faut regarder la réalité en face.
Sur les propositions d'aménagement de la retraite, et notamment sur celle du Parti Socialiste, parce que M. Acroix ne nous a pas complètement renseigné, mais il faudrait quand même qu'on entende un peu M. Jeannonnet sur le cumul emploi-retraite et la rémunération de Mme Boutin.
Ah, bah écoutez, je suis
heureux. Pour le modem.
Que vous me donniez.
D'autant que Mme Boutin, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas si longtemps, était de vos amis, Monsieur Jeannonnet.
Je ne l'ai pas connu personnellement. Non, mais je répondrai tout à l'heure à Mme Boutin ou à l'interpellation que vous me faites gentiment provocatrice. Je voudrais simplement. Je vais d'abord donner mon. Je vais répondre à votre question sur le cumul emploi-retraite. Avec ce mot cumul qui, dans cette affaire-là, a une connotation un peu négative. Et puis, je voudrais quand même réagir un petit peu à tout ce que j'ai entendu, notamment de la part de M. Andréotti. Je vais commencer ma réflexion, et vous allez comprendre très bien, par un petit événement auquel j'ai participé récemment dans le cadre d'une réunion, d'une formation professionnelle de l'agroalimentaire, qui a eu lieu dans le cadre de mon activité professionnelle la semaine dernière, où j'ai eu la chance, j'ai rencontré une personne qui a commencé à travailler à 14 ans avec un CAP de charcutier. Et cette personne-là, 14 ans, il a commencé à travailler. Et c'est quelqu'un qui avait certainement un talent, qui avait une compétence, et qui a progressé dans toute sa carrière, à tel point qu'il a été repéré par un grand groupe alimentaire tout au fur et à mesure de sa carrière. Et il a terminé sa carrière, si on peut dire, en prenant la direction d'atelier d'un grand groupe agroalimentaire. Donc il terminait directeur, il était mis en place par son grand groupe pour réorganiser complètement des ateliers.
C'est-à-dire que la charcuterie mène à tout à condition d'en sortir.
La charcuterie mène à tout, certainement. Voilà. Mais pour vous décrire un parcours professionnel de quelqu'un qui a travaillé énormément, qui était complètement, qui a été sur des chaînes de production, etc. Et cette personne, c'est évidemment, a pris sa retraite il y a quelques mois. Et compte tenu de son expérience, de sa capacité, lui-même avait envie de continuer son activité qui lui plaisait bien. Il était en bonne santé, il est toujours en bonne santé, et il était repéré, il était connu par sa fédération professionnelle qui lui a proposé, dans le cadre des nouvelles dispositions, j'oublie le nom là, les emplois en tant que profession indépendante, si vous voulez. Hein. Il est maintenant formateur et il intervient à la demande d'ateliers pour former les ouvriers qui sont sur les chaînes de production et également
et alors on le rémunère pour ça, quel scandale.
Alors, bien entendu, il est rémunéré, bien sûr, c'est une prestation tout à fait normale, et j'espère qu'il est rémunéré tout à fait correctement, hein. Il est rémunéré dans le cadre d'une profession libérale, et il est en retraite. Et moi, je trouve cela très bien. Alors, ceci pour introduire ma première réflexion, qui est de dire, quand même, nous avons assisté depuis plusieurs années à des abandons complets de toute une série de secteurs de notre production industrielle, hein, et que je trouve ça extrêmement lamentable. Et si des anciens qui ont acquis une compétence sont capables, hein, de transmettre leur savoir-faire à des jeunes, moi je trouve ça plutôt positif, hein. Je trouve ça très très bien, hein. Voilà. Alors, je reviens un peu sur les notions de cumul, hein. Sur le mot cumul, j'ai entendu là dans le débat qui a démarré, hein, on fait des cumuls de Madame Boutin entre une retraite, entre une indemnité
conseillère régionale,
entre une démission hyper rémunérée à 9 500 € par mois sans risque, c'est pas elle qui va chercher les factures, ça lui tombe tous les mois, je veux dire, bon, ça c'est un peu facile. Et même également, j'ai entendu dire aussi qu'on cumulait des indemnités sur les cigares, je ne sais pas quoi, avec des activités. Alors, moi je considère cet aspect de voir, si vous voulez, ce cumul emploi de retraite d'un point de vue négatif. Compléter une rémunération, une petite rémunération d'une retraite, c'est la vision un peu négative de voir les choses. Moi, j'essaye de voir là l'aspect beaucoup plus positif, qui est au contraire d'apporter une richesse à notre société, et je trouve ça très très bien, hein. Et d'autant plus qu'on a besoin de travail, on a besoin de transmettre les savoir-faire, hein. Et c'est une des réflexions d'ailleurs que nous nous sommes faites, hein, puisque notre mouvement démocrate s'est réuni, son conseil national s'est réuni samedi dernier, donc ça tombe bien, hein, pour prendre une position commune, hein, sur les propositions qui sont faites par le gouvernement. Et dans le.
Et commune avec le gouvernement, si j'ai cru comprendre.
Non, justement, non, on pourra le détailler. Je vais l'ouvrir. Et en point numéro 2, justement, on a 9 points, hein, qui sont d'accord avec ce que propose le gouvernement, d'autres qui sont totalement opposés à ce que propose le gouvernement. Donc, si vous voulez, c'est ni blanc, ni noir. Et je voudrais quand même vous lire le deuxième point,
hein, on s'en fait pas.
Qui commence comme cela. Avant tout, la réforme des retraites doit s'accompagner d'une conquête de la production et donc d'une reconquête du travail, tant en nombre d'emplois qu'en qualité du travail. Eh bien, je pense que tout ce qui va faciliter la transmission des savoirs, la transmission des savoir-faire, hein, ne peut qu'encourager cette reconquête du travail, hein, puisque, évidemment, on va en parler, hein, si le discours que l'on entend, c'est de dire à 50 ans, il n'y a plus de travail, voilà. Hein, bon, donc, pourquoi partir en retraite à 62 ou 63 ans, quoi.
Enfin, je voudrais, fait qu'il n'y ait plus de travail à 50 ans, alors, c'est donc, plutôt si de l'ordre voulez, moi, du je... fait que voilà. De l'ordre de la proposition.
Bon, moi, je trouve que c'est très positif, hein, que l'on puisse continuer à travailler, continuer à apporter une richesse à la société, hein, en étant rémunéré, ce qui me paraît tout à fait normal, hein, et je voudrais tout de suite évacuer aussi le débat qu'on aura, en dire on a une masse de travail qui se partage entre des jeunes et des moins jeunes, ceci est totalement faux, la masse de travail ne se partage pas, au contraire, elle se développe, elle s'auto-enrichit. Voilà, donc, on a démarré le débat
avec la croissance, je suppose, comme dans les projections du COR, avec une croissance sans doute à 3 ou plus de 3% comme il était dans les
au moins
3 ou 4 scénarios du COR, c'est-à-dire toujours de la croissance. Non, j'y crois pas, moi.
Alors, je voudrais quand même terminer parce que je voudrais réagir.
On sait toujours pas la position du MoDem, excusez-moi de vous couper. C'est très intéressant l'avis de votre parti, mais.
On est d'accord.
Aujourd'hui, vous avez parlé de la production, c'est très bien, on est tous pour le travail, on est tous pour la production.
On n'est pas contre le cumul. Emploi-retraite, voilà.
C'était la positive attitude, c'est intéressant, mais la position aujourd'hui du MoDem sur les retraites, excusez-moi, je ne suis pas sûr que les auditeurs, là, ils aient compris.
Je réponds à la question. Attendez, mais on va y venir. Je voudrais quand même réagir, parce que ça va permettre peut-être d'introduire ce débat-là, à quand même un déni de réalité que nous a clairement exprimé M. Andréotti, hein, où il a dit qu'il n'y avait pas de problème de financement, qu'il n'y avait pas de problème de répartition entre les actifs et les inactifs. C'est sidérant, moi, je trouve, d'entendre un tel déni de réalité.
Voilà, j'ai dit, c'est un problème de choix et de volonté. Si l'on veut, c'est ce qui manque, selon le gouvernement d'ailleurs, qui fait un chantage sur la dette épouvantable depuis des années. Non, ce n'est pas un problème. La France est riche.
Moi, je parle pas en termes de chantage du gouvernement.
Jamais il n'y a eu autant de richesses dans ce pays. Les grandes fortunes, les profits, les privilèges éclatants, les milliards de retraites dorées, vous ne les comptez pour rien, les boucliers fiscaux, l'équivalent de ce que ça demande pour financer jusqu'à...
On fait comme ça.
Non, non, on ne fait pas comme ça. On prend des décisions parce que le gouvernement prend les siennes. Il est tout aussi réaliste de prétendre que dans...
Mais on n'est pas obligé d'inscrire sa réflexion. On n'est pas obligé d'inscrire sa réflexion.
Qu'on va travailler à 64 ans, 65 ans, en tenant aucun compte de la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, en n'ayant aucune politique de l'emploi, justement. Non. Mon discours, je le reprends, était bien celui-là. Il n'y a pas de problème de financement si l'on veut prendre certaines mesures.
Mais justement, mais ces mesures-là, elles sont peut-être pas... possible d'être prise si on reste dans un cadre de réflexion qui est celui fixé par le capitalisme financier dans lequel le système dans lequel on est. Mais on n'est pas obligé d'inscrire notre réflexion. Et c'est pareil
pour
les Verts, Europe Écologie.
Au travail, tant qu'on y est à 70 ans, pourquoi ça a été là ?
On n'est pas obligé d'inscrire notre réflexion dans les mêmes pas idéologiques que celle où s'inscrit la droite. Je crois pas que
le patronat va s'arrêter à cet âge-là.
Le Parti communiste est, s'il vous plaît.
Mais il demandera même les vacances, les congés payés supprimés. N'ayez crainte.
Monsieur Andréotti, quand j'entends.
Parce
qu'au
train où l'on régresse, monsieur Jeannaudet, vous allez voir
je voudrais prendre une position, je voudrais prendre une position
si
médiane sur le déni de réalité
fatalité,
qui est pas... Monsieur Andréotti et monsieur Peset, j'ai l'impression, mais vous avez parfaitement droit, puis de toute façon vous êtes là pour vous exprimer, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de nous expliquer, ce qui est peut-être une possibilité d'ailleurs, que si la retraite était financée non pas par des cotisations mais par l'impôt, les choses iraient beaucoup mieux.
Mais non.
Est-ce que c'est une traduction
abusive ? Il y a une position très claire du MoDem sur le financement de la retraite.
Moi, je peux donner
des
mais si vous voulez un débat technique sur des projets qui ont été faits de financement, il y en a même, je vois, qui ont été faits par les Verts. Je ne suis pas ouvert, je suis Europe Écologie, je ne suis pas ouvert, mais j'ai lu leurs propositions lors dernier conseil là, du 16 juin. Mais il y a des propositions même chiffrées qui se basent sur le scénario C, c'est le troisième scénario du corps, qui est celui qui prend en compte une croissance moins forte que celle qui est annoncée. Parce que baser des scénarios pour 2030 sur une croissance à plus de 2,5% avec soi-disant de retour au plein emploi, mais c'est idiot, enfin c'est idiot. Je veux dire, ça ne sert à rien, quoi, essentiellement. Et c'est simplement, après, c'est tout un dispositif ça, qu'il faut remettre en cause. Et cette remise en cause, je crois qu'on peut la faire. On nous a dit travailler plus longtemps, plus pour gagner plus. Il y a combien de chômeurs en plus depuis 2-3 ans ? 900 000, je crois. 800 000 ou 900 000.
Ça ne répond pas à ma question.
Oui, mais quand même. Et donc, après, non, après, moi, je suis pour les cotisations retraite. Il y a même une augmentation qui pour des cotisations retraite qui peut être envisagée. Des cotisations retraite. Mais il y a aussi des taxations de revenus qui viennent du capital, qui sont donc quand même une mobilisation équitable de ressources qui sont d'autres ressources qui interviennent dans l'assiette, donc des retraites. Ça peut être la CSG multipliée par deux sur les revenus du patrimoine, la contribution sociale des retraites sur les dividendes, une fin d'exonération. Une fin d'exonération de reçus.
Ça ressemble à des impôts.
Non, mais fin pourquoi pas. Mais pourquoi pas augmenter. Mais on est d'accord aussi pour augmenter l'impôt. Eh oui. Mais oui, on est d'accord aussi pour une nouvelle augmentation des impôts qui reviennent plutôt au taux d'imposition de
2000. Au taux d'imposition de 2000.
Ah, mais la pénibilité aussi, j'ai envie de dire. Mais vous me demandez des mesures, je voudrais en dire d'autres. Il y a suppression de niches sociales et des niches fiscales, ça ferait déjà pour 8 milliards d'euros. Alors, j'en ai une liste, je ne vais pas les dire.
Question,
bon, augmentation des cotisations, je vous l'ai dit.
Vous êtes en train de m'expliquer. Non, augmentation des cotisations.
Pas nécessairement une taxation des. Mais qu'est-ce que vous voulez.
Vous
ne voulez financer que par une augmentation d'âge de cotisation. C'est bien pareil. C'est sera sur les salaires. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est sortir d'un système par répartition. Et donc, ne pas faire que ce soit une porte ouverte, effectivement, à ce que les plus riches puissent se payer de meilleures retraites. Parce que quand vous dites qu'il y a la pénibilité, mais il y en a d'autres problèmes, et vous le savez, il y a seulement, effectivement, il y a aussi les sous-retraites. Regardez, dans le monde agricole, on est en Aveyron. Combien elles touchent les femmes d'agriculteurs ? Elles touchent beaucoup moins que ce qui est le seuil de pauvreté, le revenu minimum de seuil de pauvreté, qui touche moins de 800 euros par mois, nettement moins quand même. Et même des agriculteurs touchent moins. Donc il y a les sous-retraites, on n'en parle pas. Il y a effectivement les conditions des femmes qui n'ont pas travaillé, qui ont des retraites incomplètes, les gens qui sont au RSA. Ça, il y en a beaucoup de gens qui ont des retraites incomplètes. Or, quand on me dit qu'effectivement, il faut tout penser par rapport aux 40 ans, il a eu raison, M. Andréotti, de le rappeler, c'est un salarié sur deux qui liquide sa retraite en étant dans l'emploi. Un salarié sur deux seulement. Et on voit qui c'est.
il y a les emplois publics, c'est des hommes, c'est essentiellement des emplois d'hommes, non ? Et beaucoup d'emplois publics, et puis l'emploi traditionnel. Mais c'est fini ce monde-là. Et comme dans l'option écologique, il y a quand même l'idée qu'il faut sortir de ce système économique pour le penser de façon durable, et même pour les retraites écologiques, je crois que c'est aussi parce qu'il faut modifier le système. Alors, je ne veux pas le penser autrement.
Je voudrais qu'on revienne sur la pénibilité et ce que j'en ai compris. Moi, si j'ai bien compris ce qui commençait à être expliqué tout à l'heure par M. Lacroix pour le Parti Socialiste, par M. Roch pour l'UMP, et c'est que la pénibilité serait prise en compte au titre de l'invalidité. Et puis, Monsieur Lacroix trouvait que ça n'était pas exactement de prendre une prise en compte de la pénibilité. J'ajoute que je crois que ça fait maintenant 5 ans qu'on a demandé à un groupe de travail, je ne sais pas combien il est rémunéré, cela, mais de réfléchir sur la pénibilité. Et si je ne me trompe pas, ils ne nous ont rien sorti.
Exact. Exact, parce que tout le monde trouvait que son travail est pénible. Tout le monde, hein. Les enseignants vont trouver que c'est pénible.
Enfin, si on s'adresse à des ergonomes, à des médecins, on doit bien arriver à avoir des définitions, quand même.
Oui, mais c'est compliqué. Alors que quand vous avez un taux d'invalidité, là, il y a un critère. Bon, c'est un début. Et on sera, je pense, le premier pays du monde à prendre en compte ce critère. Qu'il faille aller au-delà, qu'il faille l'améliorer, bien évidemment. Mais il faut commencer avec les moyens que l'on a.
Comment on prend en compte la validité? Parce que
dans la proposition du gouvernement, il y a une proposition qui est qui fait que la pénibilité se reconnaît par une invalidité constatée de 20%. Et ça, c'est totalement inacceptable. Donc là, je rassure totalement Monsieur Lacroix. Le MoDem est totalement opposé à cette mesure, puisque la pénibilité.
C'est que je comprends pas ce que ça veut dire. J'aimerais bien qu'on m'explique.
Ce que propose le gouvernement, c'est de constater qu'il y a effectivement une invalidité de 20% pour dire il y a eu effectivement peut-être un travail pénible.
C'est les médecins du travail qui
l'ont fait. Et à ce moment-là, on a droit à une retraite complète ou pas?
Attendez, mais déjà sur le constat de la pénibilité, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait de dire que la pénibilité se constate à partir du moment où on est malade ou invalide, à plus de 20%, qui sont des choses qui sont très très rares. Moi, j'ai discuté avec des médecins du travail, c'est extrêmement rare quand ils arrivent à obtenir, à démontrer qu'il y a une invalidité de 20%. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Par contre, la pénibilité ne peut pas se discuter en dehors des branches professionnelles. De même que il y a dans les branches professionnelles, dans les métiers eux-mêmes, si vous voulez, la prise en compte d'un certain nombre de contraintes qui sont liées à ces métiers, la pénibilité doit être traitée, doit être décidée, doit être validée à ce niveau professionnel. Et ça doit être quelque chose qui doit être géré, en plus, c'est notre proposition, par une caisse autonome, de la même façon que la couverture des risques professionnels, qui pourrait ressembler au système qui existe actuellement.
Une cotisation de plus.
Peut-être des cotisations de plus, bien entendu.
Mais il va bien falloir trouver l'argent. On a commencé déjà à en parler. Effectivement, comme je le maintiens, aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas en compte la pénibilité. Le constat de l'invalidité dont vous avez parlé tout à l'heure, ça ne convainc personne. Les partenaires sociaux qui demandent, et tous à l'unisson depuis des années qu'on y travaille, et on a les pistes sur lesquelles on peut aller pour prendre en compte à la fois la pénibilité physique, le travail physique, mais aussi peut-être le mal-être au travail qui est plus imperceptible. Mais il faudra qu'il y ait des acteurs pour constater ça, et vous avez raison de parler du médecine travail. Sauf que si on parle du médecine travail, on sait très bien qu'aujourd'hui, au-delà du débat sur la pénibilité, la médecine du travail, elle est quasiment
réduite
à néant, parce qu'aujourd'hui, on a tout fait pour que les médecins au travail, et encore plus en rural, ils n'aient pas les conditions pour exercer leur métier. Alors demain, si vous voulez prendre en compte la pénibilité, il faudra qu'on discute de comment la calcule. Et aujourd'hui, pour moi, en tout cas, le compte, il n'y est pas, parce que les professions physiques, et M. Jeannaudet l'a bien expliqué, les professions physiques, si on attend ce qu'ils soient malades, invalides, pour pouvoir la prendre en compte, ça va concerner personne, votre impénibilité. Mais après, il faudra qu'on travaille, et on a des propositions sur savoir qui c'est qui la calcule, et les médecins du travail enroulent un rôle important à jouer là-dedans, à condition qu'on leur donne les moyens.
Oui, je crois qu'ils le pensent, enfin, il y a pas mal de gens, à gauche en tout cas, qui le pensent en termes de pénibilité, de souffrance. Et il y a aussi donc qui sont vraiment posés dans cette réflexion, qui peut-être commencera en septembre, réellement, puisque depuis 5 ans, il n'y a pas de vraie réflexion. Il y a par contre une destruction, comme il a dit, à médecine du travail. Il y a les horaires, les travails en horaires alternants, 3-8, 4-8, tout ça. Il y a évidemment les gens qui sont exposés, qui ont été exposés à des produits toxiques, dangereux et tout ça, qu'il faudrait prendre en compte. Bien sûr, il y a eu l'amiante, mais bon, il y en a d'autres, apparemment. Et je crois que c'est une réflexion, effectivement, qui mérite qu'on ne peut mais pas passer sous silence.
Une volonté politique.
Puisqu'il y a des gens qui ont quand même 6 ans d'espérance de vie de moins, mais surtout 10 ans d'espérance de vie de moins sans problème physique, ce qui ressort des études, même du corps.
Qui n'est pas souvent posée et qui me vient à l'idée en vous entendant. Est-ce que vous pensez que le seul remède à la pénibilité, c'est la retraite?
Non.
Je trouve ça un peu étonnant. Parce qu'on a l'impression que vous faites le constat qu'il y a des choses pénibles et invalidantes, ce qui est quand même extraordinaire. On gagne sa vie en esquintant sa santé, à vous entendre.
On n'a pas dit ça.
Non, mais je sais bien que je vous provoque. Hein. Et le seul remède, c'est de prendre sa retraite, ou il y a peut-être d'autres dispositions, non?
Bien entendu.
Il y en a d'autres, sauf qu'aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Et ça sera un moyen de répartition. Si on parle de système de répartition, de prendre en compte cette pénibilité-là, et ça ne résout pas tous les problèmes qu'il peut y avoir au travail, d'expliquer à quelqu'un qui est aujourd'hui dans un travail qu'on va considérer pénible, lui dire tu partiras 2 ans. Si il commence son travail et qu'au début de sa carrière, sur les 10 premières années, c'est déjà difficile, bien sûr qu'il y a d'autres solutions pour qu'on arrive à ce que les salariés soient au travail. Il faut prendre aussi en considération que pourquoi aussi c'est plus facile pour ceux qui dirigent de mettre cette pénibilité au panier, c'est que la classe, on va dire, ouvrière, qui est en partie concernée par ce problème-là, elle est beaucoup plus dispersée qu'avant. Je veux dire, il y a 40 ans, ça aurait été plus simple d'avoir un front commun pour dire la pénibilité. Aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers, il y a des métiers dans la grande distribution, il y a des métiers, on connaît tous des exemples. Qui sont à moins 6 ans des infirmières, des cadres, il y a aujourd'hui des travails où c'est beaucoup plus difficile parce que le rythme intensif...
Regardez tous ces gens, malheureusement. Le postier d'Aurillac, la lettre qu'il a écrite, ça ne fait pas la une, tout ça, bien sûr. Le suicide de ce malheureux postier, qui révèle dans sa lettre ce que devient la nouvelle, à cause de cette nouvelle organisation, la vie d'un postier ordinaire. Et qu'on ne vienne pas. Parce que j'ai l'impression que ce débat est fait par des gens, je me disais tout à l'heure, ironiquement, bien portants, qui n'ont pas de soucis, eux. Et qui semble ne connaître personne qui trime au travail quand il en a autour de lui. Et alors que les exemples malheureusement abondent, à France Télécom, à La Poste, les conditions se dégradent tellement que je me demande quelles projections veulent faire les experts. Quel sera l'état de la population laborieuse, comme on disait, mais même des gens qui sont employés. Le harcèlement qu'il y a, les restructurations, je termine une seconde, provoquent une telle pression psychologique, que ce soit dans les
banques... Avec les 35 heures. Ça augmente le stress.
Les restructurations, la privatisation...
Il veut pas faire en 35 heures, le travail...
Les 35 heures en tous les mois. Je vous dis, je suis responsable de tout pour le UMD.
Non, mais reconnaissez-le. C'est pas...
De ce problème de la pénibilité, il est bien...
Arrêtez de parler des 35 heures, vous les avez en grande partie mis à la poubelle.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Moi, je reproche simplement au gouvernement actuel de ne pas les avoir supprimés, ces 35 heures.
Oui. Moi, je vais vous poser une question. Quel est le métier qui n'est pas pénible? Mais tous les métiers vont être pénibles.
Entendu, oui.
Tous. Vous ne trouverez pas un seul métier non pénible. Donc, ça veut dire que vous ne résolvez pas.
Est-ce que vous êtes pour la revalorisation des travaux manuels? Parce que
mais bien sûr, cette question-là derrière. Mais bien sûr que je suis pour la revalorisation
des travaux. Physiquement,
et qu'on a travaillé, notamment en augmentant les apprentis, etc. Mais bien sûr qu'on est pour cela. Mais avec le raisonnement que vous avez,
on tourne autour d'un sujet qui est important et que j'essayais d'évoquer tout à l'heure. C'est qu'effectivement, un travail pénible que l'on commence à 16 ans ou à 18 ans et qu'à 60 ans, on est toujours dans le même travail pénible, c'est insupportable. Oui, moi, j'admire les professeurs qui sont encore à 61, 62 ans, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, devant leur classe. C'est sidérant, moi, je le vois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le problème de fond? C'est une réorganisation complète de nos façons de travailler, de nos façons... On peut pas avoir pendant 40 ans un travail pénible, c'est absolument pas possible.
Mais donc, ça veut dire ça veut dire
et ça, ce n'est pas vu du tout, ça n'est pas pris en compte actuellement dans la réforme qui est menée par le gouvernement.
Oui, ça veut dire un clair.
Mais ça vient de loin, il y a une centaine d'années qu'on aurait dû
aborder. Ça veut dire en clair que, de toute façon, vous n'avez aucune solution pour résoudre le problème des retraites. Vous multipliez les obstacles. Qui font que ce sera impossible de faire une réforme de la retraite, qu'on sera le seul pays en incapacité de... Mais si, parce que vous dites tous les métiers sont pénibles, vous entendez. Donc il faut tout. Citez-moi.
Est-ce que vous pensez qu'on demande aux Grecs en ce moment s'ils sont pour ou contre la réforme?
Citez-moi un métier qui n'est pas pénible. Enseignant, c'est pénible, n'est-ce pas?
Oui, mais alors.
Là, infirmière, c'est pénible.
À plusieurs niveaux.
Agriculteur, c'est pénible, n'est-ce pas? Bon, journaliste, j'imagine que c'est pénible. Chef d'entreprise, c'est pénible. Ingénieur conseil, c'est. Quel est le métier qui
est pénible? Donc, vous expliquez que ça sera tout.
Tous les métiers sont pénibles.
Donc, vous confirmez ce qu'on a dit au début de l'émission. On aura gagné trois quarts d'heure. C'est que vous ne voulez pas prendre en compte la pénibilité.
Mais
si,
mais je veux en compte.
Vous venez d'expliquer que tous les travaux sont pénibles. Donc, si moi je vous écoute, je serai l'âge, le même âge pour tout le monde.
Je veux expliquer que pour vous, tout est pénible et que vous allez.
Je n'ai jamais dit ça.
Mais, oui, vous ne l'avez jamais dit, naturellement. Mais si je vous demande quel est un métier non pénible, vous êtes incapable de me donner un métier non pénible. Donc, ça veut dire que vous considérez.
Je suis pas ministre. On peut en discuter après l'émission. Je ne suis pas ministre. Il y a des partenaires sociaux que le gouvernement.
Vous considérez que tout est pénible. Je vous assure, moi, je ne sais pas comment vous vivez, dans quel pays vous vivez, mais regardons un peu ce qui se passe ailleurs. On sera le seul pays. On fait la réforme la plus légère de tous les pays. Regardez ce qui se passe, y compris. Vous dites que j'ai un tropisme, mais on peut bien aller voir dans les pays dirigés par des socialistes, parce que c'est plus facile.
Ah, mais ils n'en veulent pas, les Grecs.
Oui,
ils
n'en veulent pas, mais.
Demandez à un Grec s'il est pour ou contre la réforme.
Oui, mais en Espagne, vous avez Zapatero, il est socialiste, il fait la retraite 67 ans.
Vous nous avez tous expliqué qu'effectivement, tous les métiers sont pénibles. Enfin, certains sont même carrément invalidants. Or, je me souviens, il y a des années, il y avait assez peu de concertation dans les entreprises. Il y a eu des lois qui ont été prises. Elles ont eu un effet, plus ou moins, mais enfin, la concertation a été organisée, obligatoire, de par la loi. Et les directeurs de ressources humaines mettent en œuvre cette concertation et ça a plutôt amélioré les choses. Mais, alors, vous décrivez des processus invalidants et je ne vous vois pas... proposer de loi pour que les entreprises, pour que le travail soit organisé.
Mais les syndicats, de façon ils étaient porteurs, quand même. Les syndicats, même les pas mal de bien partis sûr. Politiques ont porté des solutions et des propositions qui ne sont pas du tout dans cette réflexion pour le moment, puisque c'est une réflexion encore en 3 ou 4 mois, alors qu'on m'a donné pour modèle, par exemple, la Suède, ils ont mis 15 ans, avec des projections comme celle du corps, 15 ans pour boucler des dossiers et prendre des mesures. L'urgence des marchés financiers ne m'intéresse pas. Vraiment, mais je vous l'ai dit. Mais par contre, il me semble que les propositions qui sont faites, c'est toujours sur, effectivement, la formation tout au long de la vie. C'est la possibilité de temps partiel vers la retraite progressive avec des temps partiels et couplé souvent, par exemple pour les Verts, avec du tutorat envers les jeunes pour, effectivement, que ne se perdent pas les savoir-faire. Le savoir et qu'il y ait une transmission au sein de l'entreprise, que ce soit pas simplement faire dégager les personnes qui coûtent le plus cher, qui gagnent le plus. C'est ça qui se passe.
C'est ce qui existait avant qu'on
fait dégager les gens qui coûtent le plus cher pour prendre des gens ensuite moins formés, moins diplômés et tout. Donc moi je crois qu'il y en a effectivement.
Mais ça c'est pas sans lien à mon avis avec la retraite à 60 ans. Je crois qu'il faut faire attention à ça. C'est que l'investissement dans une formation, l'investissement dans son travail d'une personne qui arrive à 55 ans, que ce soit du côté de cette personne-là ou que ce soit du côté de son employeur, on aura beaucoup plus de mal à investir en formation, à investir du côté de l'entreprise, en sachant très bien que cette personne va partir à 60 ans. Et moi, j'ai connu cette période il y a quelques années, où on s'arrangeait pour avoir des pré-retraites à 58 ans. On pouvait vivre tout à fait correctement pendant 2 ans en attendant sa retraite. Eh bien, voilà une mauvaise relation, à mon avis, entre le fait que l'on part très tôt en France et ses caractéristiques. Le taux d'emploi des seniors en France, il est de l'ordre de 30% à partir de 55 ou 60 ans, je crois.
On l'a dit tout à l'heure, il y a une personne sur deux qui part en retraite en étant au travail.
À l'âge du départ à la retraite. Il faut en être conscient de ça. Donc, le fait de reculer ce départ...
Ayant le compte bon.
Va permettre d'encourager les investissements de la personne et de l'entreprise sur la formation et ce qui va permettre effectivement de faire évoluer aussi les emplois des gens et commencer peut-être à résoudre ces problèmes de pénibilité.
Je suis à croire sur cette amélioration des conditions de travail, parce que c'est comme ça que ça s'appelle finalement.
Oui, c'est une question qui est globale et qui dépasse la discussion sur ce projet de loi qui sera discuté en septembre. C'est vraiment, on parle là, on touche à des... du doigt à la conception qu'on veut donner au travail, à la répartition. Donc les conditions de travail, on sait qu'elles se sont en partie dégradée parce qu'il y a aussi des enjeux derrière qui sont la rentabilité. Il faut que les grosses entreprises elles accentuent, et puis Monsieur Roch le sait très bien, le rendement aujourd'hui des Français, ils l'ont augmenté. On peut accuser les 35 heures de tous
grâce
les
jours. Grâce aux 35 heures.
Le rendement
oui, parce qu'il faut que les Français à 35 heures en fassent autant que dans d'autres pays où ils sont à 40 heures.
Donc aujourd'hui, ils sont de plus en plus productifs.
Oui, mais grâce au ce qui augmente le stress au travail. Parce qu'il faut que les Français en 35 heures fassent le travail de 40 heures. Mais si, c'est mécanique.
Qui augmente sa production, c'est pas forcément mal. Après, il faut voir dans
quelles conditions. La productivité.
Il faut voir dans quelles conditions.
Il faut que l'ouvrier français en 35 heures en fasse autant que les autres en 40 heures.
Donc, moi, j'assume les 35 heures parce que c'était la répartition du travail et que c'est, moi, ma vision des choses sur la société que nous devons défendre. C'est une société où tout le monde puisse vivre ensemble, où on puisse répartir le travail et que chacun puisse vivre dignement.
Déjà, excusez-moi une seconde.
Minimum.
Quand M. Fillon a pris ses fonctions de ministre, c'était sous Chirac. Une des premières phrases qu'il a faites, c'était pour nous accuser, à la gauche, d'avoir incité à la paresse. Ça me rappelait furieusement les phrases de Vichy, où on avait culpabilisé les Français avec les congés payés.
Non, c'est une boutade.
C'est la même philosophie qui vise à culpabiliser les Français dès qu'ils font une petite avancée de civilisation.
Non, mais Monsieur Andréotti, on peut pas raisonner valablement.
C'est comme ça qu'on les avait culpabilisés.
On les culpabilise pas, mais il faut regarder la réalité.
Ils se soignent trop, ils ont trop de congés, ils veulent moins travailler. Ce sont des gens incurables, si vous préférez. Les experts n'ont pas de problème de retraite, comme les fonctionnaires de Bruxelles qui gagnent 9000 euros. Et qui, en un an, ont l'équivalent de 3 ans de retraite, ceux-là, par exemple, vont vous dicter le taux à imposer et les années nécessaires. Ce sont eux qui vont vous les écrire, les textes. Sur lesquels devra s'aligner.
Les retraites, jusqu'à présent, c'est chaque pays quand même qui règle sa loi. Bien sûr, on fixe la loi, mais chacun est face à la réalité.
L'uniformisation, elle se fait pas forcément.
Quand on est dans l'opposition.
L'uniformisation, elle se fait pas forcément.
On est obligé de tenir compte de la réalité. Et puis, pensons à nos enfants, pensons à nos petits-enfants. On doit les respecter. Et les respecter, c'est pas leur laisser des dettes insurmontables. Des dettes qu'ils ne pourront pas payer.
Mais les dettes sont celles des dirigeants.
Nos petits-enfants et vous tous autour de la table ovale. Maintenant, ce sera en septembre, puisqu'on est arrivé au terme. Bah oui, on va prendre des vacances, surtout après tout ce qu'on s'est dit. Donc, c'était Table ovale sans ellipse sur CFM avec François Jeannazet pour le Modem, Angèle Andréotti pour le Parti communiste, Lionel Lacroix pour le Parti socialiste, Guy Pezet pour Europe Écologie, Serge Roch pour l'UMP, et le tout animé comme il pouvait par Claude Devezin. Bonnes vacances.